Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Violence en République démocratique du Congo, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, se rendra ce jeudi en Ituri, province de l'Est du pays, où des centaines de civils ont été massacrés depuis fin 2017. C'est ce qu'a déclaré l'ONU ce lundi. Une visite annoncée alors que l'armée congolaise dit le même jour avoir neutralisé dans cette province 12 assaillants de groupes armés qui terrorisent les civils. Madame Bachelet commencera son séjour de 4 jours en RDC dans cette province où les violences depuis fin 2017 pourraient représenter des crimes contre l'humanité, voire même un génocide, selon un rapport de l'ONU publié le 10 janvier. Au moins 701 personnes ont été tuées en Ituri depuis fin 2017, selon l'enquête du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Le conflit oppose deux communautés de l'Ituri, les Lendu, majoritairement agriculteurs, et les Ema, éleveurs et commerçants. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant. Au Nigeria, des combattants islamistes s'en sont pris samedi à des installations de l'ONU à Ngala, une ville reculée du nord-est du Nigeria, près du Cameroun. Une base alimentaire proche d'un camp de déplacés où 55 000 personnes ont trouvé refuge et dépendent de l'aide humanitaire. C'est ce qu'annonce l'ONU et des sources sécuritaires ce lundi. Les assaillants ont incendié des bâtiments et pillé l'aide humanitaire. Ils ont également brûlé 5 véhicules. La région en question est la cible d'attaques djihadistes de Boko Haram et de la branche ouest-africaine de l'État islamique, l'ISWAP. Le coordinateur humanitaire de l'ONU au Nigeria, Edward Cannon, s'est dit indigné par cette attaque extrêmement violente contre un centre humanitaire très important dans la région. Le camp de Ngala a été établi en janvier 2016 après le retour de milliers de réfugiés nigérians chassés du Cameroun voisin. Selon l'armée nigériane, les assaillants ont été repoussés après de violents combats qui ont fait 4 morts côté djihadiste. Un soldat a été tué. Au Niger, près de 5000 personnes ont fui la zone de Chinegodar dans l'ouest du pays après l'attaque du 9 janvier qui a tué 89 soldats nigériens, une des incursions les plus meurtrières de l'histoire du pays. C'est ce qu'a annoncé ce week-end l'UNHCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Les témoignages recueillis mentionnent des populations civiles craignant pour leur vie après un ultimatum de la part des groupes armés, souligne l'UNHCR. Selon l'agence onusienne, les populations sont victimes d'attaques, d'enlèvements ou d'assassinats, tandis que leurs biens sont appropriés par les groupes armés. Au Mali, une réunion du CSA, le comité de suivi de l'accord de paix d'Alger, s'est tenue dimanche à Bamako. Objectif, discuter notamment du retour des soldats maliens à Kidal, dans le nord du pays. Le point avec Jean-Roger Bion.
Selon un document officiel, l'ordre du jour de cette rencontre prévoyait le redéploiement à Kidal des premières unités de l'armée nationale reconstituée, formées des forces armées maliennes, des combattants de l'ex-rébellion et des groupes armés pro-gouvernement. Le dialogue national inclusif, lancé mi-décembre avec l'opposition et la société civile et le lancement d'un fonds de développement des régions du nord du Mali, était également au menu de ces discussions. 4 ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel étaient présents, ainsi que Ismaël Chergui, le représentant de l'Union africaine. C'est la première réunion du CSA depuis que les ex-rebelles Touareg ont suspendu leur participation en septembre 2019 après le report d'une réunion à Kidal. L'armée malienne n'a pas repris pied dans cette ville de l'extrême nord depuis sa lourde défaite dans des combats face aux rebelles en mai 2014 pendant une visite de Moussa Mara, le premier ministre de l'époque.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sissi a renouvelé l'état d'urgence dans le pays pour 3 mois, complétant ainsi une 3e année sous cette législation d'exception instaurée en avril 2017, à la suite d'attentats contre des églises copta, Tanta et à Alexandrie. Des attaques dont le bilan avait été de 45 morts et qui avaient été revendiquées par le groupe djihadiste État islamique. Le décret annonçant le renouvellement spécifique que l'état d'urgence sera prolongé pour 3 mois à compter du 27 janvier à 1h du matin, heure locale, soit le 26 janvier à 23h, temps universel. L'état d'urgence élargit considérablement les pouvoirs de la police en matière d'arrestation, de surveillance et peut même imposer des restrictions à la liberté de mouvement. Conflit en Libye voisine, la conférence de Berlin sur la Libye a pris fin dimanche soir dans la capitale allemande. Les principaux pays concernés par la guerre civile libyenne ont promis de respecter un embargo sur les armes et de ne plus interférer dans ses affaires intérieures. Claire Morin-Gibault.
Un accord international a été trouvé pour tenter de relancer les efforts de paix en Libye, même si les conséquences de cet engagement restent incertaines sur le terrain. Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'Union nationale à Tripoli, et Khalifa Haftar, qui contrôle l'Est libyen, ont refusé de se rencontrer lors de cette conférence. Un problème relevé par Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, qui a reconnu n'avoir pas réussi pour l'instant à lancer un dialogue sérieux et stable entre eux. Tant M. Lavrov que la chancelière allemande Angela Merkel, hôte de la conférence, ont parlé d'un petit pas en avant, tout en reconnaissant que beaucoup restait à faire pour parvenir à la paix. Principale avancée, les dirigeants de 11 pays, dont la Russie et la Turquie, ont souligné dans une déclaration commune qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit. Les participants ont aussi promis de respecter enfin l'embargo sur les livraisons d'armes à la Libye, décrété par l'ONU en 2011.
Le Bénin a célébré le 10 janvier dernier la fête des religions endogènes. Une occasion pour s'interroger sur le rôle que peuvent jouer les dignitaires religieux et têtes couronnées dans la crise qui secoue le pays depuis les dernières élections législatives. Mais pour beaucoup, la politisation de la tradition fait de l'intervention des chefs religieux dans la crise post-électorale une mission impossible. Le point avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dondé.
Les 10 derniers jours ont été marqués par de violents affrontements dans le nord du Bénin, occasionnant des morts civiles et des blessés graves dans le rang des forces de l'ordre. Le dialogue politique semble montrer ses limites et les regards sont tournés vers les chefs traditionnels et les rois pour aider au retour à la paix. Mais les gardiens de la tradition eux-mêmes sont méfiants quant à leur incursion dans ce dialogue. David Kofi Aza est prêtre du Fa. Il s'inquiète de la politisation des cours royales et couvents.
Tous les rois font de la politique, tout le monde fait de la politique dans le milieu traditionnel, parce que c'est facile d'avoir de l'argent en faisant de la politique dans le milieu traditionnel. Il faut qu'on commence à penser demain. Dans 25 ans, que sera le monde du vaudou?
Caliste Koumalaini est chef traditionnel. Pour lui, en tant que garant de la tradition, les religions endogènes pouvaient bien aider à ramener la paix si la corruption et autres vices ne s'étaient pas emparés du monde traditionnel.
Les rois doivent apprendre à mériter la couronne qu'ils ont sur la tête. C'est une couronne qui fait d'eux un rassembleur. Ils ne doivent pas prendre cause et effet pour l'un au détriment de l'autre. On a amorcé une dissonance morale au sein de nos cours royales depuis que ceux qui connaissent un peu le français ont commencé par être intronisés. Ils ont transplanté l'esprit de la corruption et de l'escroquerie dans les cours royales.
Pendant que certains dénoncent la politisation à outrance des couvents et cours royales, d'autres pensent que pour s'assurer, le chef traditionnel n'a parfois pas le choix. Dajanili pense que pour avoir des dignités neutres, il faut que l'État pense à soutenir financièrement à travers un fonds les religions endogènes.
Mais on ne peut même pas les condamner. Parce que vous voyez, on dit, bon, dignité, je m'incline. Et tu t'inclines, moi, je n'ai rien à manger. C'est quoi ça, là? Mais on ne confie rien aux dignitaires. Et ils vont manger. Alors, si on voit un député, si on voit un ministre, qu'on leur donne quelque chose, moi, je trouve qu'ils sont contraints de faire ça. Moi, je ne peux pas les condamner. Donc, celui qui n'a pas d'autres moyens, qui n'a pas d'autres sources de revenus, il doit faire là. Je ne veux pas qu'on les condamne.
Le 10 janvier, lors de la fête des religions endogènes, certains fidèles ont fait part de leur désir de voir les religions jouer leur rôle pour le retour à la paix. Mais pour cela, il est important de se débarrasser de la politisation et d'avancer en toute neutralité, pense Rouno Béombeza.
Vaudoir beaucoup d'avenues, mais avant que l'avenue là nous prospère, ça va dépendre primo de nous qui sommes les dignités de la religion. Et nous devons protéger, nous devons prendre soin, nous devons rehausser notre tradition avant que les autres ne la prennent au sérieux. Le vaudou est tellement marginalisé qu'on ne taille aucune importance et je pense qu'un beau jour, les gens vont nous comprendre.
Travailler à redorer le blason des religions endogènes pour parvenir à être crédible aux yeux de tous les Béninois, c'est entre autres la mission que se sont assignés les gardiens de la tradition. Ils espèrent y parvenir pour apporter leur pierre au retour à la paix encore très fragile au Bénin. De Cotonou, Ginette Fleur Adané pour VOA Afrique.
Et pour terminer ici à Washington, c'est demain que va démarrer pour de bon au Sénat le procès en destitution du président Donald Trump, accusé par les démocrates de la Chambre des représentants d'avoir fait pression sur l'Ukraine pour forcer le pays à ouvrir une enquête sur un possible rival en...